Chapitre 4. Renaissance, humanisme et réformes religieuses, les mutations de l'Europe. Cours 3. Les réformes protestantes et catholiques. Pourquoi et comment le christianisme se divise-t-il au XVIe siècle? A. Le contexte de la réforme protestante. 1. Les nouvelles attentes des fidèles. Au XVe siècle, les croyants sont tentés par la peur de l'enfer. Pour assurer leur salut, ils vouent un culte grandissant à la Vierge et aux saints, multiplient les œuvres, les pénitences et les pèlerinages. La papauté en profite en leur vendant des indulgences. En réaction, certains chrétiens aspirent à une religion plus simple, passant par une pratique plus individuelle, par la prière et la lecture des textes religieux. 2. Les conséquences religieuses de l'humanisme. Les humanistes, par leur travail sur les manuscrits grecs et hébreux, cherchent à rétablir le texte de la Bible dans sa forme originelle, en gommant les déformations subies au cours des siècles. Ils donnent à voir la distance qui sépare le christianisme des origines de celui de la fin du XVe siècle, caractérisé par la multiplication des cérémonies, des rites et des intermédiaires entre Dieu et les hommes. 3. La crise de l'Église catholique. Le clergé catholique est critiqué. On lui reproche d'être ignorant et mal formé, avide de richesses, de mener une vie dissolue et d'être peu sensible aux angoisses des fidèles. Des religieux s'efforcent de répondre à ces critiques, mais leurs efforts restent isolés et ne suffisent pas à apaiser des fidèles déçus. B. Les réformes de Luther et de Calvin. 1. Le rôle de Martin Luther. Martin Luther est un moine allemand très angoissé par la question du salut. En 1517, il jette les bases de la réforme en publiant ses 95 thèses dans lesquelles il dénonce la vente des indulgences et les abus de l'Église. Il affirme que les chrétiens ne peuvent être sauvés que par leur foi et non par leurs œuvres. Excommunié par le pape en 1521, Luther rompt avec le catholicisme. Il propose un nouveau culte, plus simple, en langue locale, reposant sur le texte du Nouveau Testament, qu'il traduit en allemand en 1522 afin que chacun puisse la lire. Il ne garde que deux sacrements, le baptême et la communion. Il n'y a plus de culte de la Vierge et des saints, ni de hiérarchie religieuse. 2. La réforme selon Jean Calvin. D'autres réformateurs vont plus loin. Ainsi, le français Jean Calvin, converti au luthéranisme vers 1534, affirme la thèse de la prédestination. Selon lui, Dieu choisit ceux qu'il prédestine au salut et eux-mêmes n'y peuvent rien changer, mais doivent mener une vie digne de la prédestination éventuelle. Il propose de bannir des églises toutes les images religieuses. Il fuit la France et se rend en Suisse. Il organise à Genève une église très disciplinée et d'une grande rigueur morale. 3. La fracture religieuse de l'Europe. La réforme luthérienne se répand dans le nord de l'Allemagne, au Danemark, en Norvège et en Suède. En Allemagne, les princes luthériens réclament la liberté de religion. Elle leur est accordée en 1555 par l'empereur Charles Quint. En Angleterre, le roi Henri VIII, hostile au pape, fonde l'Église anglicane. Il adopte la foi luthérienne tout en maintenant les pratiques du culte catholique. En France, aux Pays-Bas, en Écosse, les réformés adoptent la doctrine de Calvin. C. La réaction de l'Église catholique. 1. La contre-réforme. Pour lutter contre la diffusion de la réforme, l'Église et les princes catholiques organisent la répression en recourant aux tribunaux de l'Inquisition, particulièrement en Espagne et en Italie. En France, protestants et catholiques s'affrontent entre 1562 et 1598 dans des guerres de religion sanglantes. Le pape s'appuie aussi sur la Compagnie de Jésus, un ordre religieux dont les membres, les jésuites, bien formés, mènent des missions de reconquête des esprits et fondent de nombreux collèges à proximité des contrées protestantes. 2. Les catholiques se réforment. L'Église catholique reconnaît aussi ses insuffisances. Afin de lutter contre les abus et d'entamer une œuvre de rénovation, un concile est réuni entre 1545 et 1563 à Trente, en Italie. Ces conclusions réaffirment les dogmes du catholicisme, comme l'importance des œuvres pour le salut, la reconnaissance de 7 sacrements, le culte de la Vierge et des saints. Il est aussi décidé de rétablir la discipline dans le clergé et d'améliorer la formation des prêtres.